Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Rémi Bendayan, CEO et cofondateur de DataShake. Bonjour Rémi.
Salut Xavier.
Alors Rémi, la traditionnelle question pour commencer le podcast, est-ce que tu pourrais nous présenter DataShake ?
Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Très content de pouvoir parler avec toi aujourd'hui. Alors DataShake, qu'est-ce que c'est ? C'est une agence en marketing digital. Donc, on accompagne près de 200 entreprises sur toute leur stratégie en acquisition de trafic. Donc, l'acquisition de trafic, ça va être par exemple les campagnes publicitaires que tu vas avoir sur Google, Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, etc. Ça peut être également ton référencement naturel qu'on appelle aussi le SEO. Et ça peut être autre chose, ça peut être du CRM, ça peut être la gestion de tes créas. Donc, en fait, tout ce qui touche à l'acquisition de trafic, on s'en occupe pour nos clients et ça fait 5 ans qu'on existe.
Et vous êtes basé où, à Paris ?
On est basé à Paris. On est à peu près 50 personnes aujourd'hui.
Est-ce que vous êtes déjà présent international ?
Alors, on a lancé un bureau à Bruxelles il y a à peu près 2 ans. On a été tenté, tu vois, de lancer l'aventure à l'étranger pour voir un peu comment ça fonctionnait. On a envoyé quelqu'un qui était country manager pour le marché Benelux. Et écoute, c'était, disons, mitigé parce qu'on n'a pas réussi à faire vivre le bureau de Bruxelles comme on l'a voulu. L'activité n'a pas démarré comme on l'a voulu et je pense qu'on s'est un peu trompé aussi dans le choix du marché. Donc en fait, à l'heure actuelle, on n'a plus de bureau en Belgique, mais on a tenté cette expérience-là et on aimerait le refaire, mais plutôt dans un autre pays.
Et quelles sont la typologie de vos clients ?
On a donc dans les 200 clients dont je t'ai parlé, on a vraiment un éventail de clients qui est hyper large. On a à la fois des clients, tu vois, qui vont être des grosses sociétés assez établies, un peu mass market que tout le monde connaît ou quasiment. Donc les noms qui me viennent en tête, c'est BNP Paribas, Siemens, Air Liquide, Rockcar, Swiss Life. Donc tu vois, c'est des sociétés assez établies.
Oui, c'est des grosses sociétés, on va dire.
Voilà, des grosses sociétés. On a pas mal de startups. Donc des startups soit qui ont vraiment fait des grosses levées de fonds. Donc là, je vais penser plutôt à des licornes comme Conto ou Alan, qui sont vraiment des boîtes qui ont des startups qui ont bien réussi. Et puis après, on a des startups qui sont un peu moins connues, mais qui sont en phase de développement, qui ont fait peut-être une ou deux levées de fonds, qui sont vraiment en phase de croissance. Et c'est là où c'est intéressant pour nous, c'est qu'on intervient à ce moment-là pour les aider à croître. Et puis après, pour terminer, on a aussi des PME qui sont un peu moins connues. Mais en gros, on a vraiment, comme tu l'as vu, des clients qui sont de toute taille, de la PME au grand groupe, et aussi de tout secteur. On travaille avec des clients dans le B2B, dans le B2C, dans la mode, la finance, le retail, l'immobilier. Enfin, c'est vraiment très, très large.
Et du coup, nous, dans le podcast, ce qui nous intéresse, c'est de parler un peu d'industrie. Tu as cité quelques grands noms d'acteurs industriels tels que Air Liquide ou Siemens. Pour ce type de clients, et voir, je ne sais pas si tu travailles aussi avec des PME plus industrielles, mais pour ce type de clients, quel est l'intérêt pour eux de passer par ta plateforme ?
En fait, l'intérêt pour eux, c'est que en général, ces boîtes-là qui sont industrielles, là, je vais parler plutôt des grands groupes, ces boîtes-là sont habituées généralement à travailler avec des grosses agences qui sont soit des agences qu'on appelle Big Six, donc c'est Publicis, Havas, WPP, toutes ces agences-là. Donc, soit on va travailler, soit elles sont habituées à travailler avec ces agences-là avec un contrat qui dure depuis des années. Et en général, ces agences-là sont pas les meilleures sur leur métier. C'est-à-dire que les grosses agences dont j'ai parlé sont pas forcément les meilleures dans la gestion de campagne sur Google, sur Meta, Facebook, Instagram et sur les autres réseaux. Donc là, nous, on intervient en disant, vous êtes habitués à travailler avec ce genre d'agence, mais nous, étant une agence qui est un peu plus flexible, un peu plus jeune, un peu plus nouvelle génération, on fait mieux notre travail qu'eux. Faites-nous confiance. Et donc, en général, ce qu'on leur permet de faire, c'est d'avoir des campagnes qui sont mieux gérées, donc avoir plus de performance derrière et aussi à moindre coût. Ces clients sont vraiment gagnants sur tous les aspects de la collaboration. Pour les boîtes qui sont un peu plus petites, l'intérêt, c'est de leur générer plus de business. Donc, en fait, une boîte industrielle qui démarre a besoin de croître, a besoin de trouver des clients, a besoin d'être visible. Et donc, nous, notre credo, c'est de faire notre travail mieux que les autres agences et donc faire en sorte qu'en passant par nous, elles vont avoir une meilleure visibilité pour un coût ISO.
Et comment ça se passe, le processus ? Moi, je suis, par exemple, une grosse PME industrielle, j'ai quelques moyens. Je souhaite développer cette partie un peu marketing online. Je viens vers vous. Comment est-ce que vous me prenez en main, sachant que je ne suis pas forcément un expert de ces outils-là ?
L'idée, c'est on va déjà faire un call, toi et nous, durant lequel on va décortiquer un peu ton entreprise. Donc, en fait, on va parler de ta cible, de tes concurrents, de ton business model, de ton panier moyen. Enfin, on va vraiment décortiquer pas mal d'éléments sur ta boîte pour vraiment bien comprendre ton business model et qu'on ait tous les éléments en tête, tu vois, pour réfléchir à la meilleure stratégie possible. À l'issue de quoi, ben justement, on va réfléchir à une stratégie qui va être la plus adaptée pour toi. Donc, en prenant en compte tout ce que tu nous auras dit et ton budget, bien sûr, et tes objectifs, on va pouvoir définir une stratégie. Donc, on va dire, mais avec ton budget, il faut mettre X% sur Google, dans tel type de campagne, tel format d'annonce, Y% sur LinkedIn ou sur Pinterest, j'en sais rien, etc., etc. Et à l'issue de ça, on va créer les campagnes qui sont donc associées à cette stratégie. Et là, notre travail, ça va être de donc gérer ces campagnes une fois qu'elles sont lancées et les optimiser au quotidien pour que jour après jour, semaine après semaine, on se rend compte qu'il y a une amélioration des performances et donc que ta rentabilité soit meilleure. Donc, c'est un peu comme ça qu'on va compartimenter, disons, l'accompagnement. Et en général, on va aussi compléter ça avec un audit des campagnes existantes. Donc, ça dépend en fait si c'est quelque chose que tu n'as jamais fait auparavant ou pas. Mais si tu as déjà des campagnes qui tournent actuellement, ça va être aussi un bon indicateur pour nous de voir ce que tu fais, ce qui tourne, ce qui fonctionne moins. Et ça va nous permettre d'orienter un petit peu notre stratégie.
Selon toi, quelle est la plateforme, tu vois, tu as parlé de LinkedIn, de Google, de Meta, etc., pour des secteurs plus B2B, plus tournés industrie, quelles sont selon toi les plateformes qui sont les plus efficientes ?
Ce qu'on observe de façon générale sur ce genre de secteur, c'est que les entreprises B2B et encore plus celles qui sont industrielles vont avoir des campagnes qui tournent sur Google et sur LinkedIn. Certaines d'entre elles vont avoir des compléments sur les réseaux sociaux, donc sur Meta notamment, mais ça va être vraiment du complément, tu vois, pour apporter une touche un peu différente de ce que l'on peut trouver sur Google et sur LinkedIn. Mais en fait, c'est très simple. Ces boîtes-là, en général, répondent à un besoin qui est très spécifique. Et donc, c'est pour ça que Google est pertinent, puisque Google va intervenir justement en réponse à une requête d'un internaute. Donc, si toi, tu vends un type très spécifique de machine ou j'en sais rien, d'outils industriels, eh ben, tu vas vouloir intervenir à un moment où une personne va être en recherche de cet outil-là très spécifique. On est moins, tu vois, dans ce qu'on peut avoir sur Meta où c'est plus de la suggestion, tu vois, sur Meta, tu vas rarement vouloir acheter une machine à outils sur Instagram parce que tu as vu une publicité. Tu vois, en général, tu es en besoin de ce genre de produit et donc tu vas le chercher sur Google. Donc Google, ça marche très bien. Et après, pour compléter sur LinkedIn, c'est un peu autre chose puisqu'en soi, par définition, LinkedIn, c'est un réseau social. Mais là où c'est intéressant pour des boîtes qui sont B2B / industrielles, c'est que ça va permettre de pouvoir cibler des postes qui sont très spécifiques dans des industries très spécifiques, dans des sociétés très spécifiques. Et donc, c'est en général ce qu'aiment bien les sociétés dont tu parles, puisqu'elles vont en général s'adresser à une certaine typologie de boîtes et à un certain type de poste en interne. Donc, elles vont nous dire, moi, je ne parle que au CTO. Donc, en fait, ça ne sert à rien d'aller arroser tout le monde sur Meta ou d'arroser tout le monde sur d'autres réseaux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler que à ce genre de personnes en B2B. Et donc, c'est là où LinkedIn, c'est très puissant. Et honnêtement, aujourd'hui, dans le B2B, c'est la seule plateforme publicitaire qui propose un ciblage aussi précis.
Et comment vous rémunérez ? Est-ce que c'est au pourcentage ? Est-ce qu'il y a une base fixe ?
De façon générale, on va se rémunérer sur un pourcentage des investissements. C'est-à-dire qu'on va regarder combien nos clients investissent tous les mois. Et à la fin du mois, on va appliquer une grille qui nous permet de définir un montant d'honoraires précis. On a en effet un minimum de facturation mensuelle. Donc, c'est-à-dire qu'on, indépendamment de ce que tu as investi dans le mois, on ne facturera pas en dessous de ce minimum de facturation. Mais donc voilà, de façon générale, on est sur un pourcentage des investissements. Et puis après, on peut être ouvert à d'autres modèles de facturation. Donc, on a parfois fait des modèles de facturation au jour homme. Donc, dans certains cas, ça peut être plus intéressant et pour le client et pour nous. Et également, on peut aussi réfléchir à des modèles de facturation à la performance. C'est-à-dire que tu vas nous dire, moi, je veux vous payer X, par exemple, par mois de minimum, mais vous pouvez aussi gagner Y en plus si vous arrivez à atteindre tel objectif. Et là aussi, c'est gagnant-gagnant, tu vois, aussi bien pour le client que pour nous.
Ce qui serait sympa, Rémi, c'est qu'on parle un peu de toi. Bah, quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à cofonder DataCheck il y a 5 ans maintenant ?
Avec plaisir. Alors, j'ai un parcours qui est assez mince, disons, parce que je n'ai que 30 ans. Mais donc, dans mon court parcours, ce que je peux te dire, c'est que j'ai fait une école de commerce assez classique et à l'issue de quoi, j'ai voulu décrocher un stage dans la tech. Et pour moi, le Graal dans la tech, c'était Google. J'ai postulé dans plein de boîtes dans la tech, Meta, Amazon, etc. Mais là où j'ai le plus avancé, c'était avec Google. Et après, d'entretiens, etc., qui sont assez compliqués. J'ai réussi à obtenir un stage chez Google, donc j'avais 22 ans.
C'est vrai, les fameux stages chez Google où ils te posent une question un peu random, genre compter le nombre d'allumettes dans un bocal, etc.
Non, c'est une légende. En fait, ils faisaient ça à l'époque, et ils faisaient surtout ça pour des postes plus tech, pour des ingénieurs. Ce qui est vrai, par contre, c'est que dans les entretiens, ils font beaucoup de mise en situation. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément te poser des questions très précises. Est-ce que tu peux me donner la définition de tel sujet ? Tu vois, donc ils ne vont pas forcément mesurer tes hard skills avec des questions hyper techniques comme ça. Mais par contre, ils vont te dire, dans telle situation, tu es avec un client qui est de telle industrie et qui a tel problème, qu'est-ce que tu ferais? Et en fait, ça leur permet de voir comment tu réfléchis et ton cheminement intellectuel pour arriver à ta solution finale. Donc, ça leur permet de vraiment mieux comprendre comment tu réfléchis et en général, c'est assez pertinent. Mais donc voilà, donc ça, c'était mon premier stage chez Google à 22 ans. À l'issue de ce stage, j'avais en tête de faire un autre stage puisque dans mon cursus universitaire, je fais une année de césure entière, donc deux stages de 6 mois. Et en fait, à l'issue de ce stage, je commence à chercher un deuxième stage de 6 mois. Et en parallèle, je me rends compte que mes managers chez Google me proposent de rester en full-time, en CDI. Et donc, ce n'est pas une option que j'avais en tête. Et donc, de bypasser en fait mon deuxième stage, je devais également, après mon deuxième stage, faire une dernière année universitaire. Donc, de bypasser cette dernière année universitaire et donc d'être embauché directement. J'ai un peu vu avec mon école ce qu'il en était et ce qui était faisable. Et après des négociations assez légères, j'ai réussi à obtenir le fait de rentrer chez Google, donc en full-time, en CDI, à 22 ou 23 ans, je ne sais plus, je crois que c'était 23 ans. Donc, rester en full-time chez Google à 23 ans. Et en parallèle de ça, terminer mes cours à distance sur mon ordinateur le soir pour que j'ai quand même mon diplôme. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et donc, c'est comme ça que je suis rentré chez Google à 23 ans et je terminais donc en parallèle mes études pour obtenir mon diplôme. J'y suis resté 4 ans. J'ai fait 2 ans à Dublin, qui est le siège européen, et 2 ans à Paris, qui est le siège français. Et c'est là-bas que j'ai rencontré mon associé qui s'appelle Anthony, mon futur associé donc qui s'appelle Anthony, en voyant, si tu veux, de l'interne, comment les agences en marketing digital gèrent leurs clients et comment il y a une différence entre ce que Google recommande de faire et ce que les agences font vraiment. En observant, si tu veux, cette dichotomie entre ces deux aspects-là, on s'est dit, il y a quelque chose à créer, donc on va lancer notre agence, créé par deux anciens de Google, qui va appliquer les méthodologies de travail qui sont les plus recommandées par les régies. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est lancé. Et donc, la boîte, on l'a lancée en 2019, après avoir passé donc 4 ans à peu près chez Google.
C'est intéressant ce que tu dis. Donc, ça veut dire que les agences avec qui, quand tu étais chez Google, travaillaient avec Google, ne suivaient pas les recommandations de Google.
En fait, mon métier, moi, c'est intéressant. C'est les deux dernières années, mon métier, c'était d'aller chez ces agences et de les former aux produits Google. Donc, en fait, j'allais chez elles une fois par semaine environ, avec tu vois, des innovations, des nouveautés qui venaient de sortir. Et moi, mon job, c'était de les former sur ces outils-là pour qu'eux-mêmes, derrière, les mettent sur les comptes de leurs clients. Et ce dont je me rendais compte, c'est qu'il y avait certaines personnes qui étaient de très bonne volonté et donc qui implémentaient ces nouveautés-là, mais de façon générale, par rapport au budget qu'ils géraient, puisqu'on parlait là de grosses agences et donc qui géraient souvent des boîtes du CAC 40, par rapport au budget qu'ils géraient, le niveau attendu n'était pas là et il y avait des comptes. En fait, ce que j'ai retenu, c'est qu'il y avait des comptes, des clients qui avaient des énormes budgets, qui étaient bien moins bien gérés que d'autres clients qui avaient des budgets peut-être 10 fois plus petits, mais qui étaient dans des plus petites agences. Donc, c'est là où je me suis dit qu'il y avait quelque chose à jouer.
Les agences comme les petites agences, c'était plus agiles et plus expertes sur des sujets spécifiques que les grosses agences, quoi, qui sont peut-être plus généralistes.
C'est ça. Et les grosses agences, si tu veux, c'est des gros navires. Donc, en fait, c'est compliqué de faire monter en compétence tout le monde d'un coup. C'est des gens souvent, je veux pas faire de généralité, mais c'est des gens qui vont, tu vois, intégrer l'agence, puis qui vont y rester 5 ans, 10 ans, qui vont un peu s'endormir, qui vont pas forcément se challenger. Là où dans des agences qui sont plus flexibles, plus à taille humaine, c'est des gens qui sont peut-être un peu plus ambitieux. Mais encore une fois, voilà, j'aurais plein de contre-exemples, j'imagine, en tête, mais de façon générale, c'est ce que j'ai observé. Et donc, je trouve que les gros clients, les grands comptes ont tout intérêt à aller dans des agences qui sont un peu plus petites, un peu plus à taille humaine, parce que, un, leurs campagnes publicitaires seront mieux gérées. Et en plus de ça, en général, ça coûte moins cher. Donc, vraiment, c'est gagnant-gagnant.
Et du coup, quand vous êtes lancé il y a 5 ans, est-ce que ça a été compliqué pour vous d'avoir vos premiers clients ou est-ce que le fait d'avoir l'image des enceintes Google, ça vous a crédibilisé tout de suite vis-à-vis des comptes que vous approchiez?
Et ça a été assez simple, pour pas te mentir, justement grâce à deux aspects. Le premier, c'est que en ayant travaillé chez Google pendant 4 ans, on s'est quand même construit un réseau dans ce milieu-là où, mine de rien, les gens qui bossent en marketing digital, soit en agence, soit chez les annonceurs, etc., c'est quand même un milieu qui est assez petit et donc on connaît tout le monde de près ou de loin. Puis en plus, il y a des transferts entre les boîtes. Donc en fait, la personne qui a fait 2 ans en marketing digital chez telle boîte, 2 ans plus tard, elle va aller dans une autre boîte. Donc en fait, toi, tu la connaissais de la boîte A, mais tu vas aussi la connaître dans la boîte B. Donc ça va potentiellement pouvoir te permettre de bosser avec la boîte B. Donc on s'est construit un réseau qui nous a pas mal aidé. Il y a pas mal de nos anciens clients chez Google qui nous ont suivis donc chez DataShake et donc qu'on a accompagné une fois qu'on a créé la société. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, tu l'as dit très justement, c'est que le fait d'avoir été, d'être deux anciens Google, ça nous a beaucoup aidé, notamment au début, parce que c'est un gage de confiance et de qualité auprès de nos prospects. Et donc, quand tu es une société, tu vois, qui tu cherches une agence en marketing digital et tu vois cette toute nouvelle agence qui vient de se créer avec deux petits gars qui sont très sympas, très mignons, mais bon, la boîte est créée depuis 3 mois, tu as besoin d'éléments de réassurance et de confiance qui te permettent de dire « Ok, c'est bon, je signe le contrat, je vous confie mes campagnes. » Et cet élément-là, notamment, ça a été le fait qu'on soit deux anciens de Google et ça a été un vecteur de réassurance pour nos prospects et nos clients.
Donc là, tu as dit, ça fait 5 ans que vous êtes créé, vous avez déjà une quarantaine d'employés, vous avez déjà tenté une percée internationale à Bruxelles. Là, en 2024, où vous en êtes? Quels sont vos projets à court et moyen terme?
Aujourd'hui, l'état des lieux, c'est que donc en 5 ans, on a réussi humblement à s'installer dans le panorama des agences indépendantes. En France, il faut que tu saches que tu as entre 3000 et 3500 agences. Et donc, dans ces 3000-3500 agences, tu as un peu à boire et à manger. Tu as des agences de 2 personnes. Tu as des agences aussi en province qui font du très bon travail, mais qui sont plus du coup orientées géographiquement. Et disons que les agences les plus grosses en termes de budget publicitaire géré, elles ne sont pas si nombreuses que ça. On a réussi à s'installer, mais voilà… Encore une fois, on a beaucoup de concurrents qui sont plus gros que nous, mais on a réussi à être identifié sur ce marché-là des agences indépendantes françaises qui gèrent un budget média assez conséquent. Et donc maintenant, nous, notre enjeu, c'est de commencer à ouvrir le champ des métiers que l'on peut couvrir. On a réussi à s'installer sur notre métier historique, c'est-à-dire le métier de gérer des campagnes publicitaires, comme je te l'ai dit, sur Google, Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, etc. Donc ça, on sait très bien le faire. On est meilleur que la concurrence sur beaucoup d'aspects. Évidemment, on ne va pas lâcher ce métier-là et on doit continuer à croître là-dessus. Mais en parallèle de ça, on a depuis un an enclenché une nouvelle stratégie de diversifier les métiers qu'on couvre. Et donc, depuis un an et demi, on a lancé une nouvelle entité qui se concentre uniquement sur le référencement naturel. Et donc là, on va accompagner nos clients sur le référencement naturel, donc sur Google notamment. On a également lancé une entité créa qui accompagne nos clients sur la production et le conseil créatif. Donc, on va pouvoir créer des visuels pour nos clients et les conseiller sur leur stratégie créative. On a créé une entité data qui va accompagner nos clients sur tout ce qui est dashboarding, tracking, analytics. Donc, c'est vraiment un aspect un peu plus technique de notre métier. Et là, on est en train de lancer, on l'a pas encore annoncé officiellement, mais je te le dis en avant-première, tu as de la chance. On est en train de lancer notre entité CRM, et puisqu'on va donc accompagner nos clients sur la gestion de leur stratégie CRM, leur base de données, leur stratégie newsletter, les différents flows qu'il faut qu'ils envoient, etc. Donc en fait, on devient de plus en plus une agence 360, et je dirais même un groupe d'agences avec des métiers qui sont complémentaires entre eux. Et on se rend compte aussi que c'est un besoin de nos clients, puisqu'on a de plus en plus de clients qui nous disent moi, ça m'embête d'avoir un acteur qui gère mon SEO, un acteur qui gère mes campagnes Google, un acteur qui gère ma créa. Et pour eux aussi, ça les arrange de plus en plus d'avoir un unique prestataire de service qui fait tout pour eux. Et donc, ce besoin-là, il a aussi émané des besoins de nos clients. Donc c'est pour ça aussi qu'on a pris cette direction.
Est-ce que vous pensez retenter une aventure internationale à court terme ou pour l'instant, c'est en pause?
Alors, on a décidé de lancer une aventure, enfin de lancer un bureau dans un pays anglophone, donc je pense les États-Unis ou l'Angleterre, en 2026. Et en fait, pourquoi 2026? Parce que d'ici là, on aura terminé ce qu'on est en train de construire, à savoir l'élaboration de différents services complémentaires à notre offre historique. Et donc, d'ici 2026, alors peut-être sûrement avant, mais d'ici 2026, on aura, si tu veux, un groupement d'agences qui seront fonctionnels, qui ne seront pas des groupements d'agences, qui seront pas des agences pardon, de 3-4 personnes. On parle vraiment d'agences indépendantes de 10-15 personnes minimum, j'espère, avec des clients qui tournent, avec des process qui sont établis, etc. Donc, c'est déjà le cas, par exemple, pour le SEO et c'est en cours pour le CRM. Mais donc, d'ici 2026, on aura ce groupement d'agences-là et donc, on sera paré pour aller attaquer un marché étranger avec une offre, tu vois, qui est complète, qui puisse s'adresser à un maximum de clients. Et à ce moment-là, on le fera un peu différemment de ce qu'on a fait à Bruxelles. Donc voilà, on a prévu de faire ça en 2026.
Ouais, c'est l'avantage d'avoir des retours d'expérience, c'est que du coup, vous savez peut-être là où vous avez pêché, faire quelque chose un peu différent, quoi.
Voilà.
Rémi, la dernière question qu'on pose dans le cadre de podcast, généralement, aux entrepreneurs comme toi, c'est est-ce que si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui aimerait se lancer dans le grand bain de l'entrepreneuriat, mais qui ne saurait pas forcément par où commencer, qui n'a pas les codes, quel serait ce conseil ?
Pour avoir rencontré pas mal d'entrepreneurs qui sont dans le même cas que moi ou pas d'ailleurs, il y a quand même un fil conducteur, c'est très très bateau ce que je veux dire, mais il y a un fil conducteur parmi tous ces gens-là qui ont réussi notamment, c'est la force du travail. Et en fait, souvent, avec un travail acharné, avec un gros volume de travail, tu vois, d'heures de travail un peu constamment, et bon, bah, c'est le jeu, tu vois, c'est un sacrifice qu'il faut faire pour plus tard, on arrive quand même à quelque chose. Donc, et après, la question est de savoir dans quoi tu investis cette grosse charge de travail. Et donc, si tu n'as pas les codes et si tu es novice sur une certaine compétence, ben là, ce travail-là, tu peux le mettre dans ta formation sur ce sujet-là ou tu vas t'informer. Moi, je suis très aussi partisan de rencontrer beaucoup de monde. Je considère que si tu veux t'implanter dans un milieu et être successful, tu es obligé de connaître tes concurrents, tes potentiels clients, tes partenaires, etc. Donc, je trouve que c'est très important de rencontrer beaucoup de monde, faire des déjeuners, faire des petits-déj, même avec des gens qui a priori n'ont rien à t'apporter ou à qui tu peux pas apporter grand chose et peut-être qu'in fine ça va se transformer en une opportunité business. Donc voilà, je suis partisan de tout ça, de l'effort, de l'implication et du travail. Et je pense que si on délivre une grosse charge de travail et que cette grosse charge de travail elle est bien allouée, disons, et ben derrière on augmente fortement sa probabilité de succès. Et comme c'est souvent dit notamment par des entrepreneurs, si c'est pas la première fois, ce sera la deuxième, si c'est pas la deuxième ce sera la troisième, mais si on tire le trait de la courbe, à la fin ça payera à un moment donné, à part si vraiment on n'est pas chanceux. Mais donc voilà, donc je pense que la clé pour moi c'est de s'acharner au travail, de travailler intelligemment bien sûr, et si on arrive à combiner tout ça, a priori on augmente ses chances de succès.
Je suis plutôt d'accord avec toi, ouais, c'est vrai que ça n'est pas de secret, hein. Même tous les gens que j'ai interviewés dans ce podcast ils travaillent beaucoup au début en tout cas.
Et même après, je te confirme, même après, ça fait 5 ans, ma femme pourrait confirmer ça, mais voilà, en vacances, il y a l'ordinateur qui est pas loin, mon téléphone il sonne toujours, enfin tu vois, et il y a toujours des meetings par-ci par-là, donc voilà, même après 5 ans, et ce serait une erreur, je trouve, justement, de pouvoir se dire c'est bon, c'est derrière moi,
ouais, ou de
c'est
relâcher. Bon. Ouais.
Voilà, à part quand on a une multinationale de 10 000 personnes, mais et encore. Donc je trouve que je pense que c'est un état d'esprit dans lequel il faut rentrer en tant qu'entrepreneur, et on en sort jamais malheureusement. Et du coup, comme on sait que entrepreneuriat égale grosse charge de travail, alors je trouve que notre rôle en tant qu'entrepreneur pour que ça se passe bien, c'est de faire en sorte que c'est de transformer cette charge de travail en quelque chose de positif, de plaisant, pour que mine de rien, quand j'ai un appel alors que je suis en vacances, je le vois pas comme comme une contrainte, mais quelque chose, tu vois, qui me stimule et qui me permette de réfléchir et d'avancer. Donc voilà, je pense que c'est la meilleure manière, disons, de traiter ce sujet.
Très clair. Eh bien, merci beaucoup Rémi pour cet super entretien. Je te souhaite plein de bonheur et de succès pour DataShake.
Merci à toi, c'est très gentil. À bientôt.
Et voilà, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'ai été ravi de vous faire partager ce moment avec cet entrepreneur très inspirant. N'hésitez pas à nous soutenir et laisser vos commentaires sur nos réseaux sociaux LinkedIn, Twitter et Instagram, ou bien encore nous laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain pour le prochain épisode de nos podcasts. À jeudi !